O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado. Tempestade 2.1.
Olá a todos, il est 14h03, vous êtes sur Radio Alpha pour Themestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Laura et Liliana sont de retour, comment ça va les filles?
Ça va et vous?
Bah moi ça va très bien, Liliana je crois qu'elle est hyper occupée, là elle nous entend même plus.
Si, je vous entends très bas, mais oui je vous entends.
Bon, tout ce qui compte c'est que ça aille, et aujourd'hui on a notre experte Sophie qui est avec nous, elle présentera sa rubrique Quadrep So Quadrep d'ici 30 minutes, ça fait plaisir de te revoir ici.
Oui, ça me fait très plaisir de vous revoir en vrai aussi depuis le temps.
Ah ouais, vraiment. Et bien sûr, vous l'avez découvert la semaine dernière, on a Esteban qui est avec nous, comment ça va?
Eh bien, bonjour tout le monde.
On a hâte que tu nous parles de l'actu sport, ça va être la thématique pendant tes 2 mois de stage. Et aujourd'hui au programme culture, sport, musique et littérature, puisque nous recevons l'autrice Raphaëlle da Fonseca, comment ça va?
Ça va très bien, bonjour à toutes et à tous et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
Bah nous on est super contents d'enfin te recevoir sur Themestade de Chanton, bah oui parce que j'ai présenté tes 3 romans,
c'est
dans
vrai.
Le Scadège de Julie et plus récemment du coup ton dernier bien sûr, La Falaise aux Hirondelles. Restez avec nous pour en savoir plus, on en parle au moment de l'interview à partir de 14h45. Et en attendant je vous laisse avec un incroyable featuring féminin, Madonna et Sabrina Carpenter, c'est sorti hier et ça s'appelle Bring Your Love. What are you doing it for? Is it for you? Is it for them? I've got something I want to talk about. Sabrina, Madonna, I've got something I want to talk about. Don't comment on my C'est le moment de l'événement de la semaine sur Themestadt de Spontoon et j'ai deux événements à vous présenter qui auront lieu la semaine prochaine. Tout d'abord, ce mardi 5 mai, vous le savez peut-être, mais c'est la journée mondiale de la langue portugaise. Est-ce que c'est une fête que vous célébrez ici? Non?
Non,
pas du tout. Vraiment, non. J'avoue qu'au Portugal, c'est le 10 juin, début juin,
oui,
la journée nationale.
Mmh.
10 juin, oui.
Du coup, c'est un peu une célébration de la culture et de la langue lusophone.
Oui, puis il y a eu le 25 avril il y a pas longtemps. C'est vrai que là, on est servi en termes de fête portugaise. Mais en tout cas, si vous voulez le célébrer, sachez qu'il y a des célébrations qui sont organisées à Paris. Donc, pour l'occasion, notamment par la librairie portugaise et brésilienne, que vous connaissez sûrement, du 5e arrondissement de Paris, mais aussi par l'ambassade du Brésil en France. Oui, parce que c'est la langue portugaise, donc on a toute la lusophonie qui participe. Donc, toute la journée, la librairie vous propose activités. Donc, je vais vous raconter un peu le programme. Tout d'abord, à 11h, on a un théâtre de clowns par l'association Quarta Além. À 13h, on a de la langue et de la traduction avec Marie Marques, qui est autrice de Neige entre lignes. À 16h, on a de la littérature et de la poésie avec Isabelle Mschkit, autrice de Uma Preta em Paris, qui est déjà passée par Themestadt de Spontoon. À 17h30, on a le podcast Ma langue maternelle n'est pas la langue de ma mère avec Alice Magdelaine. À 18h, un atelier pour enfants avec le projet Flor de Lich avec Raquel Gomes. À 18h30, des contes brésiliens avec Fernanda Gerson Ferdens. À 19h, de la musique et le lancement du livre de Mário de Andrade, écrit sur la musique brésilienne aux éditions Philharmonie de Paris avec Pedro Fragelli, Mathieu Doss et Anaïs Fléchet. Donc un sacré programme quand même. Rendez-vous donc mardi et si vous voulez plus d'informations et la réservation, c'est sur le site de la librairie portugaise et brésilienne. Et le deuxième événement, c'est par rapport à un podcast aussi également. Donc depuis novembre dernier, on suit les aventures et les épisodes du podcast Les Portugaises d'Arthur Vacher, qu'on a reçu sur Themestadt de Spontoon. Il est soutenu par la revue Regard. Le podcast raconte le parcours de trois jeunes portugais et gays qui se nouent d'amitié. C'est un témoignage profond et touchant. Arthur nous a offert 5 épisodes intimes, dont le dernier, On se quitte au Portugal, qui sort lundi. Donc nous vous invitons à aller l'écouter, ainsi que les présidences, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous laisse avec un petit message d'Arthur.
Coucou Julie, et coucou à toute l'équipe de Themestadt. Désolé, j'ai pas l'accent portugais, c'est parce que ma grand-mère ne m'a pas transmis la langue par souci d'intégration. Et donc ma mère ne me l'a pas transmis non plus. Je m'appelle Arthur Vacher et je suis le réalisateur du podcast Les Portugaises qui parle de mon amitié avec deux amis gays et portugais. C'est un monologue où je raconte ma vie. Voilà, je parle beaucoup de moi, mais aussi de ces amis qui m'ont marqué, qui m'ont fait devenir qui je suis aujourd'hui, qui m'ont sorti d'une longue dépression. Et cette amitié, malheureusement, elle a une rupture, elle a une fin. Et c'est cette fin que je raconte dans le dernier épisode qui sortira lundi. Voilà. N'hésitez pas à l'écouter. Il est sur toutes les plateformes de streaming. Et il est en partenariat avec la revue Regard, une revue de gauche et engagée. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end.
Merci beaucoup à Arthur et bravo surtout pour ce travail. On a hâte du coup d'écouter cet épisode lundi. Ça donne envie. Hein. Il y a un petit peu de gossip comme on aime. Je pense que ça va nous plaire à tous. Merci beaucoup et du coup pour ceux qui sont disponibles aussi mardi, n'hésitez pas à aller célébrer la journée mondiale de la langue portugaise. En tout cas, d'ici 5 minutes, Liana nous présentera Capital Creative. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le dernier single de Michael Freire, Quand tu danses.
Quer te entender, deixa o sonho.
A economia criativa com Tal Criativo.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha pour Themestadt de Sponton. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Capital Creative avec Liana. Alors, quel aspect du marché de l'art nous présentes-tu aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, je voulais présenter l'artiste portugais João Penalva, qui a été distingué par le Grand Prix de la Fondation EDP Art, et qui est l'une des plus importantes distinctions dans le domaine des arts visuels au Portugal. Et la décision, elle a été prise à l'unanimité par un jury international qui a salué le parcours singulier de l'artiste, marqué par une approche non linéaire, fondée sur une recherche approfondie et une expérimentation constante avec différents matériaux et langages. Le jury a également souligné l'ambition de ses projets et la constance de la qualité de son œuvre au fil du temps. Selon les membres du jury, le travail de João Penalva se caractérise par sa virtuosité et sa complexité, explorant des récits à travers de multiples médias tels que l'écriture, la peinture, le dessin, l'installation, la photographie et la vidéo. Son œuvre se distingue aussi par une vision constante entre réalité et fiction, qui met à l'épreuve la perception du spectateur. Le jury de cette édition était présidé par Vera Pinto Pereira, présidente de la fondation EDP, et comprenait plusieurs figures de premier plan du monde artistique international, parmi lesquelles des commissaires d'exposition, des artistes et des universitaires. Né à Lisbonne en 1949, João Penalva a commencé sa carrière dans les arts de la scène en tant que danseur dans des compagnies de danse contemporaine. En 1976, il s'installe à Londres, où il étudie à Chelsea College of Arts, marquant le début de son parcours dans les arts visuels. Au fil des décennies, l'artiste a diversifié sa pratique après des débuts liés à la peinture néo-expressionniste, il a exploré d'autres formes d'expression comme les vidéos, l'installation, la photographie et la performance en croisant images, textes et sons. Son œuvre interroge souvent le rôle du hasard, la perception et l'ambiguïté de l'interprétation. Penalva a vécu à Londres jusqu'en 2021, année de son retour à Lisbonne. Il poursuit également une activité pédagogique en tant que professeur invité à l'Académie des Beaux-Arts de Malmö, en Suède. Et il a
représenter le Portugal lors d'événements internationaux majeurs tels que les biennales de São Paulo et de Venise et à présenter des expositions personnelles dans plusieurs villes à travers le monde, notamment à Londres, Berlin, Paris et... Pour mieux comprendre, le Grand Prix de la Fondation LDP Arts a été créé en 2000 dans le but de récompenser des artistes à la carrière confirmée et ayant apporté une contribution significative à l'art contemporain portugais. Outre une dotation financière de 50 000 euros, le prix comprend l'organisation d'une exposition rétrospective ainsi que la publication d'un catalogue dédié à l'artiste. Au fil des années, ce prix a distingué de grandes figures de l'art contemporain portugais, consolidant son rôle de référence dans la reconnaissance artistique au Portugal. João Penalva rejoint ainsi cette liste, affirmant sa place comme figure incontournable de l'art contemporain portugais. Et j'avais une question pour toi, Rafaela. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative et plus généralement des prix qui sont créés par les institutions pour valoriser les artistes ?
Bah, je trouve que c'est une très bonne initiative parce qu'effectivement, ça permet de mettre à l'honneur des personnes qui peut-être voilà auraient du mal à avoir de la lisibilité auprès du grand public et ça leur permet aussi de leur donner des ailes pour être plus visibles.
Je trouve aussi. Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'artiste ?
Bah, écoute, ça donne envie de découvrir un peu plus, je trouve. Il y a quelques... Enfin, tu montreras ça sur les réseaux sociaux, évidemment, pour ceux qui nous écoutent, mais il y a quelques œuvres que je trouve assez sympas. Mm-hmm. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez, Sophie ?
Oui, c'est super intéressant. J'aime bien certaines de ces œuvres. Après, c'est vrai qu'en termes... J'avoue que moi, je suis au classique, en règle générale. Donc, j'apprécie, mais c'est vrai que je connais peu d'artistes et je connais peu ce...
Faut que t'ailles au musée avec Liliana, pas le choix.
Exactement, mais quand tu jouais Liliana, tu étais prête à me pousser. J'ai du mal à marcher, avec grand plaisir.
T'inquiète pas Sophie, tu vas te rétablir très vite.
En tout cas c'est super intéressant que ces prix existent pour mettre en avant les artistes au global. Il y a pas mal de prix aussi en littérature, donc c'est bien que ça existe aussi pour tout type d'art en fait.
Oui.
Parce que même en musique, on a l'habitude, aussi là, il n'y a pas longtemps, il y avait la cérémonie des flammes à la scène musicale. On a l'habitude de voir des artistes, même dans le cinéma, avec les Oscars et les Césars. Mais c'est vrai qu'on connaît moins tout ce qui se passe dans le monde des arts visuels, et notamment l'art contemporain, qui est déjà un peu connu. Alors les prix, et les...
Mais là, en l'occurrence, c'est un prix qui récompense des artistes qui sont confirmés, mais il y a aussi des prix qui récompensent des artistes émergents, et ça, c'est super important, je trouve.
Mmh.
Donc,
livre. Et toi, tu suis tout ça de toute façon. Tu nous tiendras au courant.
Je vous tiendrai au courant, oui.
Bah, merci beaucoup, Liliana, pour la découverte en tout cas. Titi, moins de 5 minutes, on va découvrir la scène du jour dans Quarelpso et Quarel avec Sophie. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter une nouveauté lusophone sortie hier. C'est le dernier single de la grande Soulaye Ramsch, Sufficient.
Mas parece que puxas por mim. Liga um pouco de responde. Sem fazer o igual, franci puta gosta. Olha como dói, sofremos os dois. Será que se eu ceder, evitamos o fim? Nós estamos sempre da briga. É de noite, é de dia. Plans o crepamba. Diz-me o que é que falta. Só amor que eu te dava. Nunca foi suficiente. Estás toda a hora errar.
fica mais bem e tu vai falhar tão. O que temos não pode ficar. Nos é sempre tão rica, é de noite, é de dia. Nós o crepamba. Diz-me o que é que falta, só o que eu te dava. Nunca foi suficiente para ti. Diz-me o que é que falta, só o que eu te dava. Nunca foi suficiente para ti.
Qual é a pessoa? Qual é ela?
Com a Sophie.
Preparados para adivinhar quem é o nosso mistério lusófono de hoje?
Vous êtes toujours sur Radio Alpha pour Thémestade de Spontan et tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Qual é a pessoa? Qual é ela? Avec Sophie.
Eh oui, alors j'ai décidé de tourner cette rubrique un peu comme une histoire, parce que j'adore qu'on me raconte des histoires, donc si jamais vous en avez, n'hésitez pas. Aujourd'hui, petit voyage, je vous amène dans une ville où la musique se ressent. Une ville de collines, de tramways, de façades colorées. Où va-t-on?
Lisboa.
Lisboa, exactement. Dans les rues sinueuses et pavées.
Je pense que c'est pour toi, Raphaël, à cette rubrique.
Ah, trop cool. Je vous disais, là où la nuit tombe, souvent c'est une femme ou un homme qui fait entendre sa voix, qui est pleine d'émotions, qui nous donne des frissons, qui remplit notre cœur d'émotions et nos yeux de larmes. En français, on dirait que cette personne nous parle d'amour perdu ou de temps qui passe. De souvenirs, de la perte. En portugais, on appelle ça la...
Saudade.
Cette saudade, elle peut prendre vie à travers une guitare, mais surtout une voix, comme je vous le disais. Une voix qui nous hypnotise. Bon, déjà, petite devinette, somme toute très accessible. De quel type de musique s'agit-il, selon vous?
Fado.
Fado, exactement. On a eu la chance sur le plateau de recevoir plusieurs chanteuses de fado, et je crois savoir qu'on est plutôt nombreux ou presque tous, en fait, à beaucoup apprécier ce genre de musique. Reste à voir si vous allez trouver la personne du jour, la fadiste du jour. Pour vous aider, je vous propose d'écouter un petit extrait d'une chanson dans laquelle elle est en duo avec une chanteuse très connue, elle aussi.
Comigo pela cidade. Diz-me com sinceridade se tu te lembras de mim. Onde cresci e amei, com quem vivi e me dei, ou se algo eu pus fim.
José.
Je sais aussi.
Ok. Est-ce que les autres, vous savez? Esteban, Laura, Liliana?
Oui.
Oui, je sais.
Ouais. Tout le monde sait. Liliana, c'est normal qu'elle sache, si je puis me permettre. C'est, il lance la musique.
Là, la musique, elle est quand même oui, assez facile.
Bon, c'est sûr. C'était pas compliqué.
Ouais, elle a déjà passé sur Thémestade en plus.
Bien sûr, de toute façon, les bonnes musiques passent toujours sur Thémestade.
Exactement, merci Sophie.
Alors, on laisse un peu le suspense pour les auditeurs, peut-être, qui ne savent pas encore. Et on revient un peu à la vie de cet artiste. La musique l'a toujours bercée. Sa mère chantait déjà, c'était une fadiste très renommée. Et elle sort son premier album en 2009, qui s'appelle Favo, qui a été certifié disque de platine. Et c'est en 2011 que son nom va dépasser les frontières et qu'elle va devenir très célèbre, même en dehors du Portugal, quand elle chante Perdóname en 2011 avec le chanteur Pablo Alborán. On va s'écouter un petit extrait.
Y una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí.
Tu la connaissais, Raphaëlla, cette chanson?
J'ai adoré cette chanson, je l'écoutais en boucle. Et là, je me dis, il y a 15 ans, c'est ça?
Oui, exactement. Ouais,
ça passe trop vite.
C'était en 2011, donc ouais, le temps passe vite. Et je ne sais pas vous, mais pour le coup, quand je l'ai écoutée, cette chanson, je me dis, mais je la connais. Je sais que j'ai déjà entendu, mais je n'aurais pas su ça. Enfin, j'aurais pas su que c'était... J'allais faire une gaffe. Voilà, je m'arrête là. J'aurais pas su qui était l'interprète avec Pablo Alborán, mais en tout cas, elle me parle, cette chanson. Donc, cette fadista, pour en revenir à Psodudia, elle est moderne, mais elle fait pas que du fado, elle fait aussi de la musique traditionnelle brésilienne, du jazz ou de la pop, et elle collabore avec des artistes internationaux, comme on a pu l'entendre dans le premier extrait, il y a quelques minutes. Ce qui fait aussi que sa musique, elle est un peu plus accessible et elle permet de toucher un public plus large et qui peut être différent du sien. Son prénom est simple et court, il commence par un C, il s'agit de...
Vas-y, Raphaëlla.
Carminho.
Exactement, Carminho. Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous ne la connaissiez pas? Je ne sais pas.
Je pense que c'est difficile de ne pas l'apprécier. Honnêtement, mais
c'est clair.
Pour l'anecdote, avant de plus m'intéresser à son travail, etc., en fait, je savais pas qu'elle faisait du fado. Genre, ça veut dire qu'au début, j'ai écouté des musiques, je voyais Calmino, et dans ma tête, je l'associais pas du tout à une fadiste, juste à une chanteuse, tu vois, portugaise un peu entre guillemets lambda, quoi.
Parce qu'elle est un peu différente des grandes chanteuses de fado qui sont connues comme Marisa, par exemple.
Elle se rapproche quand même de Ana Moura, au final, dans le style. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours adoré Ana Moura, donc évidemment que quand je me suis vraiment mise à plus écouter Calmino et que j'ai compris que c'était une fadiste, je me suis grave retrouvée, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir de la redécouvrir ou de la découvrir pour les auditeurs qui ne la connaissaient pas.
Tu connaissais, toi, Esteban?
Je connaissais un peu, mais j'avoue que j'écoute pas forcément beaucoup.
T'écoutes pas trop de fado?
Enfin, pas vraiment, non.
Moi, je la connaissais pas du tout, avant. Mais du coup, je l'ai connue avec le film Pauvre créature. Est-ce que c'est comme ça qu'il s'appelle?
Attends.
Ce film, c'est pas un film américain?
Avec Emma Stone.
Mais oui, j'ai vu ce film, mais j'ai pas souvenir
de la chanson de la bande-annonce.
Ouais, il y a une scène vraiment une scène à Lisbonne. Et c'est elle qui chante du fado.
Je me rappelle pas. Pourtant, j'ai vu ce film, mais j'ai pas capté, tu vois.
Elle est reconnue, en fait, à l'international.
Oui, elle est super connue. Toi, tu l'as découvert du coup en 2011.
Voilà, avec Pablo Alborán, et j'avais adoré. Et donc, j'avais vu des vidéos d'eux en concert, et Pablo Alborán l'a laissé chanter Alfam, et c'était incroyable. Et c'est vrai qu'après, là, je l'ai suivi toutes ces années-là. Et donc, forcément, j'étais très heureuse d'entendre le duo avec Rosalía. Je crois que c'était il y a 15 jours leur concert à Lisbonne. C'était un moment incroyable, très émouvant.
D'ailleurs, pas de concert. J'ai regardé s'il y avait des concerts prévus à Paris de Calamini. Moi, pas pour le moment.
Paris, ouais, peut-être pas.
Vous en faites pas, que quand elle viendra, on vous tiendra enfermé. Oui. Ça, il n'y a aucun doute. Et on y sera très certainement, j'espère, en tout cas.
Oui, on espère. Bon, finalement, ce personnage était un peu pour toi. Finalement, j'ai bien choisi.
Merci, c'est un beau cadeau. Sans le savoir, mais c'est un beau cadeau.
Je t'en prie avec plaisir.
Merci beaucoup, en tout cas, Sophie. Et d'ici 5 minutes, on sera du coup en interview avec toi, Raphaëlla. Oui. Mais avant cela, je vous propose d'écouter la musique. Une des musiques de Calmino que le monde aime et connaît, en featuring avec Bárbara Bandeira, On Devais.
On Devais, que se eu fico daqui, tu não sais, vai acabar sempre por doer mais, e já nem isso eu posso mudar. Não sei quanto tempo demora a esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta ao levares o meu coração. Escondes o que queres dizer só pelo medo de me ver sofrer, mas não dá. Ai, nada nos une, só nos mantém, e tudo muda, nos mudamos também. O amor seja assim, mas tudo o que eu quis para mim já não há. Ai, onde vais? Que se eu fico daqui, tu não sais. Vai acabar sempre por doer mais, e já nem isso eu posso mudar.
desligo ou deixo passar. Eu espero que seja o tempo a curar. Já nem isso eu posso mudar. Acorda-me quando acabar.
O tempo que passou por mim fez cair a minha voz. Foi contigo que aprendi o que é amar a sós. Sonhos que desperdicei, as canções que eu não cantei por ficar. Nada nos une, só nos mantém. E tudo muda, nós mudamos também. Talvez o amor seja assim, mas tudo o que eu quis para mim. Fico daqui, tu não sais. Vai acabar sempre por doer mais. E já nem isso eu posso mudar. Diz-me se vais ou não vais. Nem sei se ligo ou deixo passar. Espero que seja o tempo.
Stade de Chanton sur Radio Alpha, vous arrivez à temps pour l'interview avec Raphaël de Fonseca. Alors Raphaël, j'ai déjà parlé de toi, donc comme je le disais, à trois reprises, au sein de ma rubrique Ushka Denj de Julie. Donc en 2022, lorsque tu as sorti ton premier ouvrage Mes Nuits avec Emma B. En 2023, lorsque tu as sorti La Fille au Selfie. Puis plus récemment, pour présenter ton dernier ouvrage La Falaise aux Hirondelles, publié aux éditions Les Presses Littéraires en novembre 2025. Alors ce dernier ouvrage est honnêtement mon préféré, je te l'ai déjà dit. Il y a bien sûr toujours un lien avec le Portugal, mais il parle aussi et surtout de construction et de résilience. Hilda retourne dans son village d'enfance pour se remettre d'une relation toxique. C'était un sujet qui était important pour toi, parler de résilience, de reconstruction. Qu'est-ce que tu as voulu transmettre au lecteur ?
Alors déjà, j'ai voulu transmettre mon amour pour le Portugal, parce que moi, je suis de mère française, mais donc de père portugais. Et c'est vrai que j'y ai passé tous les étés depuis ma naissance, et ça continue. Et c'est vrai que les luso-descendants, nous, luso-descendants, on est souvent tentés par cette idée de retour, finalement, au pays qui, au départ, n'est pas celui dans lequel on est né. Et je voulais montrer dans ce livre que, finalement, ce n'est pas forcément un point d'arrivée, ce retour au pays, mais plutôt un point de départ, parce qu'en fait, le Portugal, il est peut-être figé dans nos souvenirs à nous, mais lui, il continue d'évoluer. Et finalement, pour ceux qui retournent, qui s'y installent, ce n'est peut-être pas le Portugal qu'ils avaient en tête, celui des vacances, voilà.
Du coup, tu veux donner envie aux gens d'aller au Portugal, finalement.
Ah oui, mais écoute, je suis très contente parce que beaucoup de lecteurs m'ont dit qu'effectivement, ça leur donnait vraiment envie d'y aller, donc ça fait plaisir.
Et Hilda, elle est autrice, comme toi.
Elle est autrice, oui.
Elle n'arrive plus à écrire, donc c'est une phase par laquelle, je pense, tout écrivain passe en réalité. Est-ce qu'il y a une partie un peu autobiographique dans ce roman ? Quel est le lien que toi, tu as avec Hilda ?
Alors oui, il y a une partie autobiographique, mais beaucoup moins que dans les deux premiers livres. Là, c'est vraiment une histoire purement fiction. Mais c'est vrai que oui, ce syndrome, alors qu'on appelle de la page blanche, Moi, je dirais que je me suis jamais forcée à écrire, en fait, quand je n'avais pas l'inspiration. Donc, c'est vrai que parfois, il se passe des semaines, des mois sans que je n'écrive rien. Mais je n'arrive pas à me forcer le jour où il n'y a pas d'inspiration à le faire. Donc, je préfère laisser couler et attendre que ça revienne.
Et ça te vient tout seul? Enfin, comment est-ce que tu prépares un roman, globalement?
C'est vraiment une idée qui surgit comme ça et une urgence. Et alors, j'écris avec tout ce que j'ai sous la main. Souvent, c'est avec mon téléphone, en fait. Je m'envoie beaucoup, beaucoup de notes à moi-même. Et alors, les deux premiers livres, c'était des espèces de patchwork, en fait, avec toutes les notes prises qu'ensuite j'ai assemblées. Le dernier était quand même plus construit. Mais généralement, j'ai tout de suite l'idée du livre, le début, la fin. Je sais où je vais. Et puis après, j'écris au fur et à mesure ce qui est entre les deux.
Et du coup, toi, t'as déjà rêvé, j'imagine, de tout quitter pour aller vivre au Portugal, comme Hilda?
Oui, très souvent. Alors après, voilà, il y a les événements dans la vie qui font que finalement, on n'y va pas. Mais je me souviens que quand j'ai eu mon concours d'enseignante, ça remonte à loin maintenant, 2001. C'est vrai que j'avais postulé plusieurs années de suite au lycée français de Lisbonne, mais c'est très, très compliqué de oui. pouvoir y entrer. Mais c'est un rêve que je n'ai pas abandonné, alors sait-on jamais.
Bah, tu nous tiendras au courant.
Oui, oui. Écoute,
si jamais tu as une petite maison, on peut venir en vacances chez toi. Et du coup, les Hirondelles, c'est un village au Portugal qui a l'air vraiment idyllique dans le livre. C'est un village qui existe vraiment sous un autre nom, j'imagine.
Alors effectivement, les Hirondelles n'existent pas en vrai, c'est un village fictif, mais très 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 inspiré de Zambougère à Doumar, où donc je passe toutes mes vacances, et un village auquel je suis très très attachée.
Ok, ça donne envie d'y aller. C'est no Alentejo, c'est
oui.
ça? Comme quoi, no Alentejo, c'est un très bel endroit du Portugal. Hein. Je pense qu'on n'en parle pas assez.
C'est vrai, c'est totalement sous-côté.
Oui, complètement.
Mais il fait chaud.
Il fait chaud, mais vu que c'est à côté d'Oumar,
exactement.
Ça va, finalement.
C'est très supportable.
Et la musique prend une place centrale dans ton œuvre et dans ta vie. Quel est ton lien à la musique, globalement?
Alors, il y a toujours eu de la musique à la maison. Toujours depuis petite, voilà, j'ai toujours entendu mon père chanter, ma mère aussi, et donc ça nous a toujours accompagnés sur la route justement des vacances, parce que on est une famille nombreuse, hein, on est 6 enfants, et voilà, on partait au Portugal tous les ans avec la voiture, la caravane, et c'est vrai que c'était un voyage de 3 jours, sans clim, on parlait de clim tout à l'heure, et voilà, il y avait de la musique tout au long du trajet, et donc c'est vrai que c'est très très important, j'ai toujours écouté de la musique, et je ne pourrais pas vivre sans musique. Donc, écrire sans musique, c'est pour ça que dans les 3 livres, elle est omniprésente.
Mais c'est quelle... j'ai l'impression quand même que... En fait, tu commences quasiment chaque chapitre par un titre de chanson. Et j'ai l'impression que c'est quand même très varié, au final, les types de musique dont tu parles. On a de la pop commerciale, des trucs extrêmement connus, anglophones, francophones, portugais. Comment est-ce que tu décrirais ton style de musique?
Improbable. Je crois que ma playlist, il y a de toutes sortes, en fait. Il y a à la fois l'héritage musical que j'ai eu de mon père, donc la musique portugaise, aussi bien le fado, les musiques traditionnelles, parce que dans l'Alentejo, où il y a les groupes folkloriques, le cant alentejano, etc. Donc ça, c'est très important.
J'adore.
Après, ma mère, elle est française, donc il y a eu toute la culture musicale française. Et puis après, il y a aussi ce que moi, j'ai découvert et puis aimé tout au fur et à mesure des années. Et maintenant, grâce à ma fille, je découvre aussi d'autres choses. Donc tout ça, ça fait un mélange un peu détonnant parfois.
Ouais, justement, j'ai vu que tu avais quand même mis Orelsan. Moi, ça m'a... Enfin, moi, j'adore Orelsan. C'est comment t'as découvert Orelsan? Par ta fille?
Par ma fille, oui, par ma fille. Et puis, c'est vrai que cette chanson, La fête est finie, hein, dans le livre... j'y pense souvent, justement, quand les fêtes se finissent. Je trouve qu'elle retranscrit très bien l'atmosphère qui est un petit peu... un peu nostalgique. Ouais.
C'est un poète, Orelsan, hein. C'est de la poésie, oui. Hein. Donc c'est pas que de la musique. C'est, pas que de la
c'est clair, on est complètement d'accord. Et pourquoi est-ce que tu rajoutes du coup un titre de chanson à chaque début de chapitre? Qu'est-ce que ça rajoute à l'ouvrage selon toi?
En fait, je pense que le titre, il n'est pas ajouté au chapitre. Il est au moment où j'écris, enfin quand j'écris le chapitre, j'ai la chanson qui est avec moi et c'est pour ça que bah, naturellement, finalement, elle s'impose comme le titre du chapitre.
Et t'aimerais que les lecteurs ils la mettent en lisant ?
J'aimerais bien. Alors, pour celui-là, La Falaise aux Hirondelles, j'avais créé une playlist sur Spotify avec toutes les chansons du livre. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué parce que le temps de l'écoute des titres, ce n'est pas forcément le temps de lecture du livre. Donc, c'est un petit peu compliqué à faire.
C'est sûr, mais bon, au moins, c'est... Ça permettrait d'avoir le mood, on va dire, l'ambiance en tête de ce que toi, tu avais en écrivant, en fait.
Oui.
Parce que toi, quand t'écris, t'as toujours de la musique, du coup, dans ta tête.
Oui, dans ma tête. Alors, je peux pas écrire en écoutant de la musique, mais par contre, quand j'écris, elle est dans ma tête.
Ok, super intéressant. Et alors, sans spoiler, on a le personnage de Francisco, qui est aussi un artiste musical en perte d'espoir et d'inspiration, finalement un peu comme Hilda avec la lutte. Est-ce que le parallèle entre les deux artistes, entre finalement deux arts qui sont si importants pour toi, qui sont la littérature et la musique, c'était volontaire ou c'est venu comme ça Qu'est-ce que tu voulais transmettre avec ce parallèle?
Je pense que ce sont deux arts complémentaires. Et puis, il y a des choses parfois que la littérature ne peut pas dire. Par exemple, voilà, Victor Hugo, il a dit « les mots manquent aux émotions ». Et je pense que ce que la littérature ne peut pas dire, la musique, elle, bien souvent, elle arrive à l'exprimer.
Ok, mais quel du coup, enfin, est-ce que tu penses que c'est important dans sa vie, je sais pas, d'avoir un autre artiste avec nous, enfin, en fait, je trouvais que la relation entre, j'essaie de pas spoiler, hein,
oui.
Entre Hilda et Francisco, elle est très intéressante parce que c'est deux artistes finalement qui sont en perte d'inspiration et qui à leur contact la retrouvent.
Oui, mais après, je pense qu'en fait, tous les arts sont complémentaires parce qu'à la base, à la source, c'est juste la façon d'exprimer ses émotions et le ressenti qu'on a face au monde. Et plutôt que deux artistes, en fait, qui se retrouvent, je pense surtout que ce sont deux êtres humains qui ont une façon particulière d'exprimer leurs émotions qui finissent par se retrouver.
Mmh. Oui, c'est vrai que cette partie-là est très belle, sans en dire plus. Il faut aller lire ce livre, je pense que vous allez tous aimer. On aime tous les histoires d'amour, donc encore plus quand elles se passent au Portugal et avec de la bonne musique. Est-ce que toi, tu chantes, par hasard?
Oh mon Dieu. J'adore chanter dans ma salle de bain. Non, c'est vrai que j'adore chanter. Ça m'accompagne tous les jours et... Il y a très longtemps, j'avais pris des cours de chant, mais c'était du chant lyrique, mais c'est vrai que j'adore ça. Et puis, le fado, moi, j'ai découvert Amalia quand j'avais 17 ans, et ça m'accompagne tous les jours.
Et tu as choisi trois musiques sur Themestade de Fonton. Là, tout de suite, on va passer à Ein Divine de Marisa Monte. Pourquoi cette musique
Alors, pourquoi cette musique? En fait, je l'ai découverte grâce à quelqu'un que vous connaissez, je pense, qui s'appelle Patricia et qui donne des cours de portugais en ligne. C'est le compte portugais Apprendre, hein, Patricia Madeira. Et on se suit mutuellement toutes les deux déjà depuis plusieurs années sur les réseaux. Et une fois, elle a partagé une story justement avec cette chanson que j'ai trouvée géniale. Et elle m'a inspirée et elle s'est retrouvée comme fil conducteur du livre, finalement.
Oui, parce que au-delà de... Enfin, pour promouvoir tes livres, du coup, t'es aussi sur les réseaux sociaux. Et ça t'a permis donc de faire des rencontres
Oui, de belles rencontres, comme Patricia, comme Thiago de Portugaise Fax, et puis d'autres, Portugaise de France, Coraça en Lusitano, que je salue. Donc c'est vrai que c'est chouette.
Est-ce que t'as l'impression que finalement, la littérature que tu produis et ton art te permettent aussi de relier avec ta culture?
Oui, ça fait du bien. Ça permet vraiment de se sentir, de faire un tout, en fait.
Eh bien, écoutez, on va écouter. Merci beaucoup pour ces premières réponses, Raphaëlla. On continue d'ici 5 minutes. On va parler plus en profondeur de ta carrière, tes futurs projets. Et tout de suite, du coup, on écoute la musique que tu as choisie en lien avec La Falaise aux Hirondelles, Ein Divine de Marisa Monte. Thank you.
fonte d'água fresca e fria. Te amo. Oi. Dará um metade de uma linha terra. Dá fazer um peça. Batuco da banga, bola funana.
Vous êtes sur Radio Alpha pour l'émission Themstadt durch Ponton. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours en interview avec l'autrice Raphaël Defonseque. Alors, on l'a dit, La falaise aux hirondelles, c'est ton troisième roman. Ton premier, Mes nuits avec Emma B, a été publié en 2022 chez les presses littéraires. Et ton deuxième, La fille au selfie, en 2023 chez Cadamost Édition. On va revenir au début. Qu'est-ce D'accord. qui t'a poussé à commencer à écrire ?
Alors, ce qui m'a poussée à commencer à écrire, c'était une période un petit peu compliquée dans ma vie. Et j'avais besoin d'extérioriser voilà, tout ce qui était un petit peu trop lourd à porter. Et donc, ça a commencé comme ça, en fait. Et ça a fini par faire un livre. Et ce livre, c'était La fille au selfie, qui a été finalement le deuxième publié.
Et pourquoi ? Pourquoi ça a été le deuxième ?
Pourquoi ça a été le deuxième ? Parce qu'en fait, je l'ai d'abord auto-édité. Sur les plateformes. Et puis ensuite, j'ai essayé donc de le faire éditer par un vrai éditeur. Et déjà là, les presses littéraires m'avaient répondu. Ils étaient d'accord pour publier le livre. Et en fait, quand ils ont su que c'était auto-édité, ils m'ont dit « Ah non, nous, on ne publie pas de livre auto-édité. Revenez avec le suivant. » Et alors, je me suis attachée donc, à l'écriture du suivant, mais je n'ai pas perdu l'espoir, en fait, de quand même réussir à faire publier La fille au selfie. Et donc, j'avais entendu par mon frère parler de Sandra aux éditions Cadamost, et je lui avais envoyé donc un mail avec le manuscrit, et plusieurs mois plus tard, en fait, elle m'a recontactée, et c'est comme ça que ça s'est fait.
Et comment est-ce que, du coup, ça se passe pour choisir et trouver une maison d'édition, si on a des jeunes qui nous écoutent, qui veulent commencer oui. à publier ? Comment est-ce que ça s'est passé pour toi ? Parce que c'est pas toujours facile.
Non, c'est même très très difficile, très très complexe. Hein. Alors par rapport à ce que 2022, il y a de plus en plus de maisons d'édition maintenant qui acceptent les manuscrits par mail. Et c'est quand même des coûts qui sont moindres, parce que c'est vrai que je me souviens pour le premier, tout faire voilà imprimer, le coût des envois à la poste, etc. C'est quand même voilà cher. Mais maintenant on peut les envoyer par mail. Donc moi j'avais sélectionné voilà pas mal d'éditeurs, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que souvent bah, les grandes maisons elles fonctionnent déjà avec leurs auteurs ou par réseau. Donc, il faudrait vraiment que ce soit la perle rare voilà, qui sort du lot pour réussir à décrocher un contrat d'édition. Et finalement, bah, voilà, ça s'est fait naturellement avec les presses littéraires et donc avec Sandra.
Et comment ça se passe pour la communication sur l'ouvrage ? Est-ce que la maison d'édition t'aide et t'envoie dans les librairies ? J'ai fait un... Tout le monde, là. Est-ce qu'ils t'envoient du coup dans des librairies pour faire des dédicaces ou est-ce que c'est toi qui va voir les librairies pour leur demander d'y aller?
Alors, ce sont des fonctionnements différents selon les maisons, parce que c'est vrai que, voilà, que ce soit les Presses littéraires ou Cadamoche, ce sont des petites ou moyennes maisons d'édition. Par exemple, chez les Presses littéraires, il y a un attaché qui permet de faire le relais, justement, avec la presse, les réseaux sociaux, les librairies. Donc là, c'est vrai que ce sont plutôt eux qui se sont occupés de cette phase-là. Avec Sandra, c'était moitié-moitié, on va dire.
Et pourquoi aujourd'hui t'estimes en tant qu'auteur que c'est important d'être sur les réseaux sociaux?
On sait aujourd'hui, avec l'émergence, par exemple, de tout ce qui est BookTok, on sait très bien qu'il y a beaucoup de ventes qui se font par là. Le bouche à oreille passe beaucoup aujourd'hui par les réseaux sociaux, même si je pense que malgré tout, ça ne fait pas tout, non.
Bien sûr, mais ça t'a ouvert des portes quand même d'être sur les réseaux.
Oui, tout à fait.
Déjà, t'es là.
Oui, exactement, sinon je n'y serais pas. Donc,
quels autres types de portes t'as des idées en tête, d'exemples?
Des propositions, plutôt dans les propositions de rencontres ou de relais, par exemple des personnes, des influenceurs littéraires qui contactent et qui demandent si éventuellement ils peuvent recevoir un service presse pour ensuite chroniquer le livre. Voilà, ce genre de choses, c'est vrai que ça aide.
Et alors, professeur de littérature au lycée, nous en a un peu parlé, est-ce que tes élèves savent que tu écris?
Oui, alors ils l'ont découvert tout seul. Mais c'est vrai qu'il m'en parle, mais c'est toujours avec beaucoup de bienveillance. C'est même assez touchant parce qu'ils viennent me voir en séance de dédicace et il y a toujours une certaine pudeur. Et même certains ont fermé les livres, par exemple, à leur mère pour Noël et j'ai trouvé ça vraiment chou.
Oui, parce que j'imagine qu'ils t'ont trouvé sur les réseaux de
ça. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça, et comme effectivement j'ai fait des dédicaces dans certaines librairies de ma ville, ils voient aussi passer ça, mais c'est très respectueux, et ils sont très curieux aussi de savoir comment ça se passe, combien ça gagne un auteur, ça c'est la grande question.
Donc, la question.
Ils sont un petit peu déçus quand on leur donne la réponse, et qu'on leur explique un petit peu toute la chaîne du livre, mais ils sont contents d'apprendre tout ça.
Mais c'est important, en vrai, de leur expliquer comment ça se passe, ça peut rentrer aussi dans le programme de littérature.
Oui,
finalement.
C'est vrai, tout à fait.
C'est totalement en lien. On va passer une deuxième musique, donc « Anoït » de Résister. Quel est ton rapport à cette musique?
Alors, c'est un rapport très, très ancien et puis très personnel. En fait, c'est une chanson que j'ai découverte quand j'étais petite, parce que je pense qu'elle doit dater des années 80, à mon avis. Et on écoutait souvent la radio le soir, justement, en vacances, au Portugal, Antenaou, par exemple. Et c'est une chanson qui était passée à la radio, que j'ai découverte comme ça, qui m'a beaucoup marqué. J'ai noté vite fait le titre, etc. Et c'est une chanson que j'écoute depuis cette époque-là. Et donc, elle est mentionnée dans le livre à un moment, dans un dialogue entre Hilda et Irish.
C'est un classique, on va se l'écouter tout de suite.
Merci.
Ela sorriu
fait du bien d'entendre cette musique. Hein.
Ah oui, j'adore.
Je pense qu'on l'aime tous. On va revenir rapidement sur du coup d'enseignant. Comment est-ce que tu penses que ta double culture elle influence ta façon d'enseigner? Surtout que du coup toi t'enseignes de la littérature, mais aussi du coup le français, une langue finalement. J'ai compris que t'enseignais aussi le latin.
Oui.
Une langue latine.
Oui. Comment ça influence? C'est une question difficile, ça, Julie.
Tu t'en rends pas compte, peut-être?
Je sais pas si ça influence ma manière d'enseigner le français, je pense pas. Le latin, oui, peut-être, parce que, comme le portugais, voilà, c'est proche de l'espagnol, c'est vrai que parfois, pour leur expliquer des choses en latin, je leur dis, oui, mais par exemple, ça en espagnol, en portugais, ça se dit comme ça, voilà, là, c'est vrai que ça peut m'influencer. Après, franchement, sur la littérature, je sais pas.
Oui, puisque de toute façon, vous faites que des classiques français.
Oui, c'est ça.
Je leur parle pas de classiques portugais.
Oh, ça peut arriver, si, parce que moi, généralement, je fais toujours des détours improbables.
Ça arrive à faire des parallèles.
Des parenthèses
en fait.
Toujours énormes. Donc, oui, c'est vrai qu'on fait toujours des parallèles. Par exemple, là, tu vois, au programme, en première, on a Manon Lescaut, voilà, l'histoire d'amour super tragique. Et aussi un roman épistolaire, Les lettres d'une péruvienne. Et c'est vrai que je leur ai parlé des lettres d'une religieuse portugaise, bon, qui a quand même été écrit par un auteur français, mais ça se passe à Beige, dans la Lentège. Et c'est vrai que, voilà, ça peut arriver que je fasse des parallèles comme ça.
Parce qu'ils savent tous que tu as des origines portugaises, du coup, toutes tes
élèves. Oui, ça se voit dans mon nom, de toute façon. Bien longtemps,
c'est vrai. Et t'as déjà eu des élèves du coup qui aussi avaient des origines et qui cherchaient à peut-être se rattacher parce qu'ils les avaient pas et qui venaient vers toi? Ça t'est déjà arrivé?
Pour des origines portugaises, oui, c'est vrai que effectivement les élèves qui sont d'origine portugaise, ils sont attachés au Portugal, donc ils aiment bien venir en parler, savoir de quelle région
la base.
C'est ça. Et puis on parle des vacances. Bon, il y a beaucoup de souvenirs qui sont communs, quelles que soient les générations, malgré tout. Et après, oui, j'ai beaucoup d'élèves qui sont d'autres origines, et c'est vrai que pour eux, c'est peut-être je sais pas, un peu comme si j'étais un peu comme eux, quoi. Ils se reconnaissent peut-être davantage.
Oui, parce qu'au final, on est issus de l'immigration.
C'est ça.
C'est important, je pense, pour les élèves d'avoir un peu un rôle modèle, en quelque sorte, professeur, quoi.
Oui, et puis de voir l'importance aussi que l'école peut avoir finalement dans un parcours.
On revient sur la littérature. Après La falaise aux hirondelles, est-ce que tu travailles sur un nouvel ouvrage? Toujours en lien avec le Portugal?
Toujours. En fait, moi, j'ai un problème, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Je ne sais pas écrire sans le Portugal, donc de toute façon, il sera dans tous mes livres, je pense. Donc oui, j'ai déjà écrit, on va dire, les trois quarts du prochain.
Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle?
Non, je peux aller. C'est de nouveau une romance, comme dans la falaise aux hirondelles. Il y a encore une histoire de reconstruction. Mais là, c'est l'histoire d'une jeune professeure des écoles qui, par contre, qui n'est pas d'origine portugaise. Là, elle est 100% française. Elle quitte l'île et elle va justement à l'école française de Lisbonne. Et là, tadam. Donc, il y a une grande partie qui se passe à Lisbonne, mais il y aura quand même un petit road trip en Alentejo.
Ah, bon, ça va. Alors, on n'est pas dépaysés. Tout va bien. Donc, en fait, tes héroïnes, puisque ce sont toujours des femmes, elles ont toujours un lien avec toi.
Oui, c'est vrai.
Elles ressemblent toutes un peu.
Oui. Je crois que quand on écrit, on met beaucoup de soi, de toute façon, que ce soit dans les personnages principaux, mais aussi dans les autres, finalement.
Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une thématique que tu rêverais de traiter par l'écriture? Peut-être un sentiment que tu aimerais transmettre, que tu n'as pas encore réussi à transmettre? Plus magique, par exemple.
Si j'arrivais à trouver un jour la traduction de Saoudade.
Ça,
j'adorerais.
On aimerait tous, je pense. Après, en soi, dans tous tes livres, on ressent quand même cette Saoudade, je trouve. Et tu l'as peut-être pas définie en une phrase, mais on la ressent, je pense, surtout quand on sait ce que c'est, dans tous tes livres, au final.
J'espère, merci, c'est un beau compliment Julie. Après, c'est vrai que j'ai essayé un petit peu de la définir dans Mes nuits avec Emma Bay. Il y a un passage sur la Saoudade, mais je pense que quand nous, on est d'origine portugaise, on sait ce que c'est, donc on se dit « Ah bah oui, c'est vrai, ça correspond bien à la Saoudade ». Mais pour des gens qui ne la connaissent pas du tout, même en lisant ces extraits-là, ils ont quand même du mal à vraiment imaginer ce que c'est. Donc voilà, j'aimerais vraiment trouver les mots juste un jour pour définir.
Bah, si tu y arrives, n'hésite pas à nous faire signe qu'on puisse le transmettre aussi. Merci beaucoup. Dernière petite question, est-ce que tu aurais un message à transmettre par exemple aux jeunes qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être se lancer aussi dans une carrière artistique, dans l'écriture?
Eh bien, il faut tenter, parce que on commence par voilà un petit quelque chose, et puis jusqu'où ça peut nous mener. Et voilà, il faut vraiment tenter, essayer, et parfois sourire.
Merci beaucoup. Merci. On rappelle tes réseaux sociaux, Rafaela da Fonseca.
Oui, c'est ça, sur Instagram et Facebook.
Et puis évidemment, Menuaïk et Mabé, La Fille au Selfie et La Falaise aux Hirondelles, disponibles dans toutes les librairies.
Et sur les plateformes.
Sur les plateformes. Bah parfait, merci beaucoup.
Merci
Rafaela pour tes questions. Tu restes avec nous et vous restez avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 16h. D'ici 5 minutes, ce sera le moment de l'actu sport avec Esteban. Et en attendant, on va écouter la dernière musique que tu as choisie, Quero Vivir de Sara Correia.
Merci.
Stade de Chanton sur Radio Alpha, c'est le moment de l'actu sport avec Esteban. Mais avant de te laisser parler, Esteban, on a la question rituelle pour Rafaela. quel est ton club de foot?
Alors, par tradition familiale et en pensée pour mon petit papa, Sporting.
Mauvais choix.
Très bon choix, très bon choix.
Vas-y, Esteban, dis-nous tout.
Écoutez, 12 ans après, est-ce qu'on a un nouveau club portugais en finale de la Ligue Europa? C'est en tout cas la question que se pose le Portugal dans son ensemble. C'est en tout cas bien parti, car ce jeudi soir, Braga a remporté sa demi-finale aller contre les Allemands de Fribourg. À domicile, les joueurs en rouge ont raté un pénalty avant de toucher la victoire à la 92e minute grâce à un but de Mario Dorgeles, qui c'est la légende locale Ricardo Horta, blessé à la 26e minute. Score final, 2-1. Rendez-vous jeudi prochain à 21h afin d'assister, on l'espère, à un moment d'histoire pour le football portugais. Place des championnats. Porto quasiment déjà titré, mais qui va être son dauphin? La lutte est acharnée entre les deux clubs lisboètes afin de savoir qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Et oui, pendant que le second disputera la plus prestigieuse des compétitions de clubs, le troisième se qualifiera pour l'Europa League, entraînant des conséquences sportives et économiques importantes. Le Sporting, qui a officialisé hier la prolongation de Rui Borges jusqu'en 2028, a passé de longs mois à la seconde place, mais Benfica est passé devant grâce à sa victoire dans le derby il y a 2 semaines. Aujourd'hui, les benfiquistes devancent de 2 points les Guistes, qui ont enchaîné 2 matchs nuls consécutifs contre les 2 derniers du classement, Vila das Aves et Tondela. 75 unités contre 73, et il ne reste que 3 journées. Ce samedi à 19h, les Aigles se déplacent à Famalicão alors que les Lions accueillent Guimarães lundi à 21h15. Porto peut, de son côté, remporter le championnat avec une victoire ce samedi soir à domicile contre Elverque. Le match est prévu à 21h30 au Stade du Dragon. Si le suspense reste entier pour le podium, une équipe de 2e division a déjà validé sa montée. Et c'est un retour important. Ton Marítimo jouera sa 43e saison, et oui, 43e, dans l'élite du football portugais après une victoire 2-1 contre la réserve du Benfica lors de la 31e journée. Les 9 points d'avance sur le 2e, Viseu, leur assurent le titre de champion à 3 journées de la fin. Pour finir sur le football, les joueuses du Benfica se sont imposées ce vendredi 1er mai face au Sporting sur le score de 3-1. Une victoire pour célébrer leur 6e titre consécutif acquis le week-end dernier. En plus du football féminin, Benfica étend sa domination au futsal. Dimanche dernier, les hommes en rouge ont battu le Sporting 6-5 en finale de la Coupe du Portugal. Leur 9e au total, mais là depuis 2023, et qui leur permet de revenir à un trophée du record détenu par les Verts et Blancs. Ces derniers ne sont pas restés fanis puisqu'au même moment, ils ont gagné la Ligue, la même compétition mais en hockey à roller. Une victoire 4-0 contre Barcelos qui leur offre une 6e Coupe du Portugal dans la discipline. Le 3e plus haut total derrière les 2 autres grands du sport portugais. Le FC Porto avec 19 trophées et Benfica 15 trophées. Le Sporting était aussi en lice en quart de finale de la Ligue des Champions de handball, aimant un programme bien chargé. Le match aller s'est joué ce mercredi soir et s'est soldé par un match nul 31 partout contre l'équipe danoise d'Aalborg. Malgré un avantage de 5 buts pendant la rencontre, les Lisboètes se sont relâchés, permettant à leur adversaire de revenir à hauteur et arracher le score de parité. Un mauvais résultat pour les Lions, mais qui gardent néanmoins leur destin entre leurs mains. Match retour mercredi prochain, le 6 mai, au Danemark. Un rendez-vous pour l'histoire, puisque le Sporting peut en effet devenir la première équipe à se qualifier pour le dernier carré de cette compétition. On finit avec une très mauvaise nouvelle pour le cyclisme portugais et même mondial. João Almeida, coureur de l'équipe UAE Emirates, manquera le Tour d'Italie du 8 au 31 mai prochain. Alors qu'il était l'un des favoris en finale, l'athlète de 27 ans, 4e du Tour de France en 2024, doit renoncer à cause d'une maladie qui a très fortement perturbé sa préparation. Il va prendre le temps de se reposer avant d'annoncer la date exacte de son retour. Un retour programmé pour le Tour de France à partir du 4 juillet, c'est en tout cas ce qu'on espère.
Ouais, on espère vraiment. J'avoue que je savais pas, j'étais un peu triste de l'apprendre. Est-ce que toi, tu suis les Portugais en général ou le sport en général même?
Le foot dans les grandes lignes, mais...
Il faudra écouter Esteban tous les samedis.
C'est ce que je vais
surtout
faire.
Surtout que João Almeida, je l'ai découvert il y a quelques années et c'est vrai qu'il est très fort. Donc c'est il est vraiment très fort. Donc pour le Portugal, ouais. c'est pas mal.
Ouais, en cyclisme, heureusement qu'on a. Mais tu vas voir, écoute Esteban chaque samedi, tu verras qu'on a des sacrés athlètes portugais. On fait des podiums même dans des sports où on s'attend pas. Hein. Mm-hmm. Donc on avait parlé une fois de sumo, je crois. Hein.
Ouais.
Donc ah, oui. Comme quoi. Et oui. Et il faut écouter Temstad de
Chouto. Le Portugal se développe vraiment dans tous les sports. Et pas que le foot, c'est pas que le foot le Portugal.
Exactement, vraiment, il y a de quoi suivre. En tout cas, merci beaucoup Esteban pour ce récap. Juste après, ce sera Arte Yondes avec Laura. Et tout de suite, on s'écoute un featuring franco sorti hier. C'est On m'avait dit de Félix Radu et Marine.
On m'avait dit fais-toi petite. Tu vois, c'est pas si facile. Des gens comme toi, y'en a mille. On m'avait dit, on fait qu'on peut dans la vie. Et rêver, c'est pas permis. Essuie des larmes et oublie.
Faut que je parte, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai comme la sensation que si je le fais pas, plus rien n'aurait de sens. Et tant pis si je m'égare, s'il est déjà trop tard. Si je reviens les joues rouillées par les larmes, si la vie me désarme ou me déchire un peu l'âme, j'en ferai un voilier, un bateau pour naviguer dans tous les ciels que je verrai. Et même si c'est trop grand pour moi, si je suis pas fait pour ça, si personne m'attend au fond, puis que je passe pour un con, je vais encore rêver à en faire déborder mes brouillons. Puis faire la course à l'horizon, je vais me tromper encore mille fois, trouver mille raisons de rire et m'effondrer, me laisser percuter par la vie comme une bagnole à 100 à l'heure, voir toutes les couleurs et les voler pour les mettre dans un texte. Je reviendrai, c'est promis, les poches pleines d'ur. Puis de poésie.
On m'avait dit, fais pas trop de bruit, fais-toi petite. Tu vois, c'est pas si facile. Des gens comme toi, y'en a mille. On m'avait dit, on fait ce qu'on peut dans la vie. Et rêver, c'est pas permis. Essuie des larmes et oublie. Si je finis par me tromper, j'ai pas peur de tomber. Pour mes rêves, j'aurai rien à regretter. Même si j'ai tout raté, demain je recommencerai pour mes rêves. On m'avait dit, fais pas trop de bruit, fais-toi petite. Tu vois, c'est pas si facile, des gens comme toi mille. On m'avait dit, on fait ce qu'on peut dans la vie. Et rêver, c'est pas permis. Essuie des larmes et oublie.
Je veux pas vous décevoir.
J'ai besoin de savoir et trouver ma place.
Sotaque, cor e liberdade.
Da rua para o ar,
assim se espalha a arte em ondas.
Com a Laura.
Está a ouvir o Tempestade 2.1 na rádio que nos liga. Cheguei até às 4 e chegou a tempo para Arte em Ondas. Então, Laura, o que apresentas hoje?
Hoje mergulhamos no universo visceral e indomável de uma das vozes mais marcantes da arte contemporânea portuguesa, Tamara Alves. Não sei se já ouviram falar.
Nunca.
Não. Está bem. Então, nascida em 1983 em Portimão e atualmente baseada em Lisboa, Tamara Alves cresceu rodeada pela pintura. É filha de dois artistas e começou a desenhar ainda de criança. Mas o percurso não seguiu exatamente os caminhos tradicionais. Desde cedo mostrou uma vontade clara de levar a arte para fora dos espaços institucionais, para a rua, o contacto direto com o mundo. Formada em artes plásticas e com um mestrado em práticas artísticas contemporâneas, onde investigou o ativismo público em contexto urbano, Tamara construiu uma linguagem profundamente ligada à cidade, ao corpo e ao instinto. Mas afinal, o que torna a sua tão singular? A resposta está numa tensão constante entre o humano e o animal, entre o racional e o instintivo. O trabalho de Tamara Alves recusa a frieza do pensamento lógico e abraça aquilo que ela própria sugere como essencial. As emoções cruas, a paixão, o desejo, o amor em todas as suas formas, mesmo as mais contraditórias. Nas suas obras encontramos frequentemente figuras femininas, corpos em transformação, criaturas híbridas que parecem emergir de um território onde o natural e o simbólico se fundem. É um universo onde o amor pode ser dor, ferida, prazer ao mesmo tempo, uma espécie de força selvagem que cresce dentro de nós como uma flor indomável. E há também uma dimensão profundamente urbana. A Tamara Alves é uma artista que privilegia a rua. Embora tenha exposto em galerias e instituições, a sua prática está enraizada no murais, intervenções urbanas, superfícies inesperadas. Para ela, a arte deve existir no mundo, dialogar com ele, confrontar. Desde o ano 2000, participou em vários projetos e exposições, tanto em Portugal como no estrangeiro, levando a sua linguagem a cidades como Paris ou Nova York, por exemplo. Um dos aspectos mais interessantes da sua prática é precisamente a versatilidade. pintura, desenho, ilustração, tatuagem, cerâmica, diferentes meios, mas uma mesma pulsação. E se algo que atravessa toda a sua obra é o corpo. Não é um corpo idealizado, mas um corpo expandido, em mutação, quase sem órgãos, como sugerem algumas leituras críticas, um corpo que sente antes de pensar. E recentemente, na exposição And Your Flesh Becomes a Poem, apresentada em Lisboa, essa dimensão tornou-se ainda mais evidente. As obras exploram o silêncio, a ausência, aquilo que não é dito, como se a artista procurasse capturar o invisível, o que escapa às palavras. É interessante notar que, apesar da intensidade emocional da sua obra, há também uma forte componente poética. Não é uma poesia delicada, mas uma poesia crua, quase visceral, onde cada imagem parece pulsar. E talvez seja precisamente essa combinação entre brutalidade e lirismo que torna o trabalho de Tamara Alves tão relevante no panorama contemporâneo. Num tempo em que tudo parece filtrado, mediado e racionalizado, a sua arte propõe o contrário: sentir mais, pensar menos, ou talvez sentir antes de pensar. Há também uma dimensão política, ainda que sutil, ao colocar o corpo, especialmente o corpo feminino, no centro da sua obra. Tamara questiona normas, limites e convenções. Em projetos de arte pública, como intervenções urbanas colaborativas, as suas figuras tornam-se símbolos da autonomia, transformação e resistência. No fundo, o que a sua obra nos diz é simples, mas poderoso. Somos feitos de instinto, de desejo, de contradição, e talvez seja aí, nesse território instável, que reza a nossa verdadeira humanidade. Hoje, deixo-vos com esta provocação. Num mundo que valoriza o controle, que espaço damos ao instinto?
Uma boa pergunta.
Exatamente.
Alguém tem a resposta?
Eu também não a tenho.
Obrigada, Laura. Rafaela, tu estás habituada a ver arte, ir a museus, ou ver arte urbana, neste caso, há muito em Portugal?
Oui, je réponds en français,
pardon. Pas de problème.
Oui, alors c'est vrai que moi, avec l'art moderne, j'ai un peu de mal, donc, mais j'adore effectivement dans les musées, voilà, aller voir les tableaux de l'art classique, ça j'aime beaucoup la sculpture, notamment de l'Antiquité, mais je trouvais intéressant ce que tu disais, voilà, sentir avant de penser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la musique et l'écriture, l'art c'est ça, je crois, et c'est magnifique.
Mais oui, c'est clair.
C'est vrai.
Je pense que c'est une phrase qui résume bien l'art de manière générale.
Ouais.
Et je trouve notamment l'art urbain, en fait, au final, puisque il y a dans le street art, au global, il y a quand même une dimension aussi parfois de provocation, de revendiquer un message. Et c'est vrai que c'est important, du coup, de sentir d'abord, enfin, de montrer des émotions fortes que sont, que peuvent être un rêve, genre la colère, etc. Et c'est ce que Laura présente bien. Voilà.
Ouais, et tu vas pas souvent dans l'analyse en plus quand c'est de l'art urbain. C'est pas comme l'art un peu plus classique, on va dire.
Ouais.
Tu vas pas chercher forcément à savoir l'intention derrière, alors qu'il y en a souvent, mais pas toujours.
Ce que tu disais, c'est instinctif, viscéral.
Oui, tu t'aimes ou t'aimes pas, quoi.
Oui, mais même comme ça, tu peux carrément analyser pas mal d'œuvres.
Oui. Ah oui, c'est
la fin, n'est-ce pas?
Oui. Ah oui, moi j'ai analysé tout et n'importe quoi. Hein. Vraiment, quand tu veux trouver une analyse, tu la trouves.
Et nous, à l'intérieur, il y a du street art globalement ou pas?
Un petit peu, mais pas beaucoup.
Pas beaucoup, ouais, c'est pas comme à Lisbonne.
Non, beaucoup moins. Non. Ouais. Déjà, il n'y a pas de hauts bâtiments quand même en Alentejo, ou en tout cas pas dans les villages. Mais il y en a un petit peu quand même. Hein. Par exemple, à Zambougère, il y a des murs comme ça voilà, qui ont été repeints par le street art. Mais ce n'est pas du tout comparable à ce qu'on voit à Lisbonne, bien sûr.
Mais même, ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression, au Portugal. Enfin, même nous, dans mon village à Torcendo, il y a eu vraiment la mairie qui a allé chercher des artistes pour à peindre certains murs pour vraiment rendre ça plus joli. À Couvillan,
dans ta région, il y en a vraiment beaucoup du street art pour le coup.
Là-bas, il faut y aller. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Wincont Europe de Jovem Jesus de Cap Magellan, c'est à Couvillan cette année, et la thématique, c'est l'inclusion au travers de l'art. Donc évidemment qu'on parlera de street art, je pense. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, les candidatures sont ouvertes, j'en profite. En tout cas, je repasse en portugais, obrigada Laura. E voltamos daqui a 5 minutos para os bons plans. E primeiro deixo-vos ouvir Sair de Moura, de Matilde Jacob.
Caminhos traçados por montes e prados, memórias que lembram o passado, sobreiros espalhados e vinhas ao lado, cada vez que eu perco mais um pedaço, talvez sinta falta do sossego e das noites à mesa entre amigos. Fazemos um brinde, ponta de um copo de vinho e lembro. Eu vim lá da terra onde o mar é só um mito e as ondas são lendas que liamos nos livros. Eu vim de tão longe para as margens de Lisboa. Oh, eu não queria, mas tive que sair de morro. Destinos cruzados entre o canto e o fado, trago raízes e a casa no sotaque. A multidão ao largo, em tempo apressado, troquei as estrelas pelas luzes da cidade. Talvez seja no desassossego e das noites em que nos faltam os amigos, e encontro a saudade na ponta de um copo de vinho e lembro.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha, l'émission Thémestade de Chponton touche à sa fin, mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Donc tout d'abord, la cagnotte en ligne de l'initiative Petit Geste Grand Sourire pour donner des jouets aux enfants de l'hôpital Descartes est toujours ouverte jusque demain, donc dépêchez-vous de donner. Pour les événements à venir, ne ratez pas le dîner-spectacle de Gala dos Sonhos de l'association Sara Carreira ce samedi, donc la semaine prochaine, le 9 mai, à 20h. Alors attention, il y a une programmation de dingue. On a Tony Carrel, évidemment David Carrel, mais aussi Marianne Portugal, Gypsy Kate, Julien Lièvre, David et Jonathan et Denis Esteve à Clichy dans le hall centre Camille Muffa, 6 rue Paul Dupont, donc à Clichy. Lionel Cessio se représente toujours à Paris pour sa pièce La Fleur au Fusil, mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Vous pouvez voir les lundis 21h, mardi 19h et samedi 15h au théâtre Comédie Bastille jusqu'au 29 juin. L'exposition Double Jeu de Laurent Huntunge commence le 6 mai, donc le vernissage a lieu le 6 mai à la Maison du Portugal. Je vous invite à vous y rendre, en tout cas à 20h, et puis après ça restera encore un petit moment, on vous en reparlera. La 51e fête franco-portugaise de Ponto Combo aura lieu cette année, les 23 et 24 mai. N'hésitez pas aussi à prendre vos places. En tête d'affiche, on a les Nemanus, que vous connaissez sûrement très bien, et plein d'autres artistes, je ne vous spoilerai. Nous, on y sera, et je vous invite à prendre vos places. L'association portugaise de pelote basque organise son tournoi international et son championnat national de frontball les 30 et 31 mai au pavillon Multiuses de Cavernais à Viseu. Donc si vous y êtes, n'hésitez pas à vous y rendre. Et enfin, le 1er juin, on a le concert de la grande Liniker. Quentin nous a pris ici, ce sera salle Playel, donc prenez également vos places. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Majorlan et l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Themstadt de Schmonton et Cap Majorlan sur les réseaux sociaux pour ne rien. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Raphaëlla.
Merci à vous. Merci à Themstadt, à toi Julie. J'ai vraiment merveilleux avec vous. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Un petit merci particulier à ma fille Louise et à ma nièce Mélissande qui étaient avec moi. Et petite maman, mes frères et sœurs, mes neveux nièces, les amis et puis... tous ceux aussi qui sont au Portugal.
Les embrasse, bien sûr. Grande beijinhos, comme on
beijinhos.
Merci à toi d'avoir été
merci,
avec nous.
Merci, obrigado.
On a passé un très bon moment. Et je rappelle, donc, tes trois romans sont disponibles partout.
Oui.
Mes nuits avec Emma B, La fille au selfie et La falaise aux hirondelles. Est-ce que tu veux nous rappeler tes réseaux sociaux?
Raphaëlla da Fonseca hein, sur Instagram, Facebook. Et les livres sont dispo sur les plateformes.
Pour ne rien rater, il faut la suivre parce que, comme elle a dit, un arrive. Donc, il faut être attentif. En tout cas, encore merci d'avoir été avec
Brigade.
Nous. J'invite tout le monde à aller acheter La falaise aux hirondelles et les autres aussi, Mes nuits avec Emalfi. Plutôt en librairie, si vous pouvez, c'est bien de soutenir le commerce local. Merci encore. Nous,
merci
on se retrouve
beaucoup.
La semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. On se laisse sur Aide de FCM, Georges Calme et Nikita Koste. Et je vous dis bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Bonne semaine. Bonne semaine.
J'ai du ping.
Quando diz pra mim, quero rebolar, quero deslizar meu corpo no teu. Fico perdido. Quando diz assim. Vem meu chuchuzinho que vou levar-te ao céu. É o cabaré, é o cabaré. Sempre que ela dança o bumbum balança é de enlouquecer. É o cabaré, é o cabaré. Ela me atrai que vai ser minha mulher. É provocadora, um sonho de mulher. Quando ela passa na rua e sabe-me enlouquecer. Não há quem resista, ela é sensual. Sempre que ela dança e ficam todos a bater mal. Também fico louco quando diz pra mim. Quero rebolar, quero deslizar meu corpo no meu. Ai, fico perdido quando diz assim. Vem meu chuchuzinho comigo que eu vou levar-te ao céu. É o cabaré, é o cabaré. Sempre que ela dança o bumbum balança é de enlouquecer. É o cabaré, é o cabaré. Ela me atrai um dia, vai ser minha mulher. Um balanço é de enlouquecer. É o cabaré, é o cabaré. Ela me atrai, ai um dia vai ser minha mulher. É o cabaré, é o cabaré. Sempre que ela dança um balanço é de enlouquecer. É o cabaré, é o cabaré. Ela me atrai, ai um dia vai ser minha mulher. Sou como um balanço de enlouquecer.
Tempestade 2.1. O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado, das 14 às 16. Rádio que nos liga. Redifusão, sexta-feira, às 0 horas. E podcast do site RANET. Tempestade 2.1.
Fica comigo, que não é?
na sombra. A noite é fria e o peito aberto. Fica comigo, é perto. Quando vieres, traz-me a luz lá. Haja o que houver, somos metade um do outro. Quando partires, morro por dentro num perpétuo momento, como as flores na batalha, que o teu beijo me valha. Vou roubar, oh, volta devagarinho. Fica comigo, fica comigo, que a noite é longa. O corpo e abrir um fogo na sombra. A noite é fria e o peito aberto. Fica comigo, que a noite é perto. Quando nascer, havemos de dobrar o perigo. E se houver fogo, que seja beijo sem abrigo.